Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Alors que les combattants de Daesh résistent dans leur dernière poche en Syrie, les Européens, eux, font face au casse-tête du retour de leurs djihadistes ce week-end. Donald Trump a exhorté ses alliés européens à reprendre les centaines de combattants de l'EI capturés en Syrie pour les traduire en justice. Les ministres des Affaires étrangères européens se retrouvent aujourd'hui pour en discuter à Bruxelles.
Dans votre journal également, l'Arabie Saoudite qui appelle à la désescalade entre l'Inde et le Pakistan sur la question du Cachemire.
Oui, après qu'un attentat à la voiture piégée a frappé jeudi dernier un convoi de parales militaires dans cette région himalayenne, véritable poudrière. Ce matin, au moins 4 soldats indiens ont péri dans des affrontements avec des insurgés dans cette même région du Cachemire.
À moins de 100 jours des élections européennes, les premiers sondages ont été publiés dans l'ensemble des 27 pays de l'Union.
Sondages qui semblent confirmer la montée des nationalistes et, à l'inverse, la défiance à l'égard des principaux groupes parlementaires, le PPE d'un côté et les sociaux-démocrates de l'autre.
Le film de François Ozon sur la pédophilie dans l'église sera-t-il mercredi prochain sur les écrans?
La justice doit trancher aujourd'hui sur la demande du prêtre lyonnais Bernard Prenat, lequel réclame que sa sortie soit reportée jusqu'à ce que lui-même soit jugé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête au lendemain des insultes dont l'essayiste Alain Finkielkraut a été l'objet en marge d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris ce week-end. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé qu'un suspect reconnu comme le principal auteur des injures avait été identifié par la police. Invité du journal dans une vingtaine de minutes, Denis Péchanski, historien spécialiste de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien entendu la grande table des idées.
Alors comment vit-on en Corée, notamment en Corée du Nord? Qu'est-ce qui anime ce peuple? L'ouverture diplomatique va-t-elle de pair avec des évolutions au quotidien à la veille du deuxième sommet américano-nord-coréen? On en reparlera avec nos invités, Pierre-Olivier François et Patrick Morus. Ils sont tous deux auteurs d'un documentaire, Pyongyang s'amuse, et d'un autre sur une histoire de la Corée diffusée demain sur Arte.
Merci et à tout à l'heure. Pris au piège dans une poche de moins d'un demi kilomètre carré, le sort des combattants djihadistes dans le village de Baghouz touche à sa fin. Dans son dernier réduit, le groupe de l'organisation État islamique s'apprête à rendre son dernier souffle. Sauf que l'offensive finale de l'alliance arabo-kurde dans cette région frontalière de l'Irak, en réalité, piétine. Il faut dire que les Kurdes eux-mêmes redoutent la fin des combats, comme en témoigne le rappel lancé ce matin à l'adresse des Européens. Non seulement ils les exhortent à ne pas les abandonner une fois Daesh vaincu, mais il leur demande par ailleurs explicitement de contribuer à la création d'une force internationale dans ce nord-est syrien face à la Turquie, alors même qu'Ankara multiplie de son côté les menaces d'intervention. Enfin, s'ajoute encore à cela le sort des étrangers retenus par les forces kurdes, lequel n'a toujours pas été tranché. Hier, le président américain Donald Trump a d'ailleurs appelé les Européens à rapatrier leurs ressortissants retenus après avoir rallié le groupe État islamique. Eric Biegala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le sujet doit être évoqué aujourd'hui à Bruxelles par les ministres des Affaires étrangères des pays de l'UE.
Oui, parce que d'une certaine manière, il y a urgence. D'abord, le nombre de djihadistes, combattants ou non, détenus en Syrie est en train d'enfler à mesure que le territoire du califat autoproclamé se réduit et que ces djihadistes et leurs familles se retrouvent aux mains des forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes. Ensuite, parce que les États-Unis sont sur le point de quitter ce territoire syrien, laissant aux miliciens kurdes toute responsabilité sur ces milliers de personnes détenues et qu'il est inévitable qu'à terme, ceux-ci s'en débarrasseront, y compris en les relâchant dans la nature. Pour autant, jusqu'à présent, l'approche a été timide en Europe quant au rapatriement. La France a annoncé vouloir rapatrier quelques 130 femmes, enfants ou combattants détenus par les Kurdes. L'Allemagne suit à la loupe ce que les Français vont pouvoir faire. Pour l'instant, c'est pas très clair dans le détail. Quant à la Belgique, elle semble avoir défini une règle claire concernant au moins les enfants. Ceux de moins de 10 ans pourront être rapatriés systématiquement et confiés à leur famille élargie quand ils en ont encore. Le cas des adolescents de 10 ans et plus sera décidé au cas par cas, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Tous les pays européens, en effet, ne disposent pas forcément des lois permettant d'incriminer un djihadiste ou son épouse dès son retour en Europe. Le chef d'inculpation très large d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste n'a pas forcément d'équivalent partout. En fait, les incriminations elles-mêmes peuvent se révéler très difficiles. En Angleterre, par exemple, autre pays de provenance des djihadistes européens, les enregistrements audio, y compris la revendication d'une attaque, ne sont pas forcément recevables comme éléments à charge dans une cour de justice. La Grande-Bretagne semble avoir trouvé d'ailleurs un moyen d'éviter ces procès problématiques. Elle aurait commencé à retirer à certains djihadistes combattants connus leur nationalité britannique, interdisant à ceux-ci tout possible rapatriement, mais aussi tout jugement en Angleterre.
Merci Eric Biegala. C'était il y a 2 mois, un accord de paix conclu en Suède avait offert une lueur d'espoir pour sortir de la guerre au Yémen. La trêve conclue entre belligérants prévoyait un retrait des combattants hors de la ville d'Odeida, un port stratégique puisque c'est par lui que transite aujourd'hui la majorité de l'aide humanitaire destinée au pays. Sauf que depuis, les retards s'étaient accumulés, tant dans le redéploiement des troupes que dans les échanges de prisonniers. Hier, le gouvernement yéménite et les rebelles aussi semblent enfin être parvenus à un accord, même si aucune date n'a encore été fixée pour le retrait des forces en présence. 5 mois après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman parviendra-t-il à redorer son blason encore maculé du sang de l'un de ses plus féroces critiques? En prenant hier la route de l'Orient, MBS entend à tout le moins faire la démonstration qu'il n'est pas un paria international et prouver notamment à l'Occident qu'il a toujours des alliés et demeure un acteur clé sur la scène diplomatique. Alors cette tournée asiatique débutée hier au Pakistan et qu'il conduira ensuite en Inde puis en Chine devrait comporter un important volet économique. Hier déjà, le prince a signé des protocoles d'entente pour un montant de 20 milliards de dollars avec Islamabad et compte tenu du fait que New Delhi comme Pékin figure parmi les plus importants acheteurs de brut saoudien, on imagine que c'est privilégié devrait là-bas aussi favoriser l'annonce de nouveaux accords et partenariats. Mais au-delà de cette diplomatie du portefeuille reste parfois un contexte tendu. C'est le cas par exemple avec le Pakistan. Le refus d'Islamabad d'engager des forces dans la coalition menée par l'Arabie Saoudite au Yémen a légèrement crispé les relations entre les deux pays. Le dossier du processus de paix en Afghanistan pourrait également être mis sur la table, même si les talibans ont annoncé hier le report de leur visite prévue aujourd'hui à Islamabad. Enfin, la visite de MBS au Pakistan avant de rejoindre l'Inde pourrait mettre au jour les difficultés entre les deux voisins, s'agissant notamment de la région du Cachemire. 4 jours après un attentat meurtrier dans cette région himalayenne qui a coûté la vie à 41 paramilitaires, ce matin encore, ce sont au moins 4 soldats indiens qui ont péri dans des affrontements avec des insurgés dans cette même région du Cachemire. Les précisions à New Delhi de notre correspondant de RFI pour France Culture, Sébastien Farcy.
L'assaut commence en pleine nuit dans un hameau du district de Pulwama au sud du Cachemire, à quelques centaines de mètres seulement du lieu de l'attentat de jeudi. Les forces de sécurité indiennes encerclent d'abord quelques maisons, mais ils essuient rapidement des tirs ennemis et 4 militaires, dont un officier, sont tués. L'armée lance alors l'assaut final et tue au moins 4 personnes pendant la nuit, 2 civils propriétaires de la maison et 2 terroristes du Jaïch-e-Mohammed, le groupe armé séparatiste basé au Pakistan, qui a revendiqué l'attentat de jeudi. L'un de ces 2 terroristes abattus serait Abdul Ghazi, un commandant du Jaïch-e-Mohammed et le cerveau présumé de cette attaque à la voiture piégée. Ce militant pakistanais a combattu aux côtés des talibans en Afghanistan où il est devenu un expert en explosifs. Le premier ministre indien s'est exprimé quelques instants après la fin de l'assaut dans le but de rallier la communauté internationale contre le Pakistan. Le temps des discussions est terminé, affirme Narendra Modi. Maintenant, le monde entier doit s'unir pour agir contre le terrorisme.
Se pourrait-il qu'un gouvernement étranger ait ourdi le piratage de plusieurs partis politiques australiens? C'est en tous les cas ce qu'a laissé entendre ce matin le Premier ministre Scott Morrison, lequel a annoncé que la cyberattaque subie il y a 3 mois par plusieurs formations, mais aussi le Parlement de son pays, était le fait d'un acteur étatique sophistiqué. Alors aucun pays n'a été nommé, reste que quelques nations seulement sont a priori capables d'une attaque de ce type, la Chine, les États-Unis, Israël et la Russie. Quoi qu'il en soit, les Australiens voteront d'ici à mai pour renouveler leur parlement, de quoi alimenter un peu plus encore donc la crainte que des pirates informatiques ne tentent d'influencer les débats, si ce n'est le scrutin lui-même. À moins de 100 jours maintenant des élections européennes, la question se pose, à quoi va donc bien ressembler le prochain Parlement de Strasbourg? Eh bien, pour tenter d'anticiper la réponse, un cabinet de conseil a été mandaté par les services du Parlement européen afin de compiler les sondages dans l'ensemble des 27 pays de l'Union. Les premiers résultats étaient présentés ce matin. Et a priori, il révèle ce dont attestent tous les scrutins maintenant depuis plusieurs mois, les uns après les autres, la défiance vis-à-vis des partis dits traditionnels. En l'occurrence, les gros perdants de ce scrutin pourraient être les principaux groupes parlementaires, le PPE d'un côté et les sociaux-démocrates de l'autre. Audrey Tison, bonjour.
Bonjour.
Et comme par voie de conséquence, le camp qui, à l'inverse, progresse le plus, ce sont les nationalistes.
Oui, ceux du groupe ENF, l'Europe des Nations et des Libertés, dont fait partie le Rassemblement National de Marine Le Pen. Il gagnerait 18 sièges pour atteindre 8%, mais on ne peut pas parler de tsunami nationaliste, surtout en regardant leurs voisins tout à droite de l'hémicycle. L'Europe de la Liberté et de la Démocratie Directe progresse légèrement, tandis que le groupe des Réformistes et Conservateurs Européens régresse d'après les sondages. L'autre progression notable, c'est celle des centristes. Explication avec Emmanuel Rivière, directeur général du cabinet Kantar.
Le pôle centriste pourrait se renforcer, d'une part par un accroissement du groupe ALDE. On voit une progression importante qui est nourrie par la progression de Ciudadanos en Espagne, par les libéraux-démocrates en Allemagne et d'autres apports auxquels pourraient s'adjoindre les députés La République En Marche, même s'ils ne s'inscrivent pas naturellement immédiatement dans le groupe ALDE.
Oui, enfin, l'accord est sur le point d'être signé. Les élus En Marche pourraient apporter 20 sièges supplémentaires à ce gros groupe centriste, le troisième du Parlement européen. De leur côté, les Verts stagnent dans les sondages. Il n'y a qu'en Allemagne qu'il gagnerait les sièges. Et tout cela se fait donc au détriment des deux gros groupes du Parlement de Strasbourg. D'abord les socialistes et démocrates qui pâtissent particulièrement du Brexit. Les travaillistes siégés dans ce groupe. Le groupe perdrait donc en tout 51 sièges d'après les projections et ne représenterait plus que 19% des élus. De son côté, le PPE, Parti Populaire Européen, se tasse. Dans une moindre mesure, il perdrait 34 sièges, mais resterait tout de même la première force politique de cette assemblée. Il va falloir une nouvelle fois négocier après les élections pour créer une alliance vers la droite ou vers le centre et la gauche. Rien n'est joué pour le moment.
Merci Audrey Tison. La première ministre britannique Theresa May va s'entretenir à partir d'aujourd'hui avec tous les chefs d'État et de gouvernement européens ainsi qu'avec le président de la Commission européenne pour tenter d'arracher quelques modifications à l'accord de Brexit qu'elle ne parvient toujours pas à faire approuver par son Parlement. Elle va donc une fois de plus s'efforcer de les convaincre de modifier la clause de sauvegarde irlandaise qui la prive notamment du soutien des unionistes nord-irlandais, une issue dont ses partenaires européens refusent pourtant d'entendre parler. Puis ce matin, 7 députés travaillistes ont eux annoncé qu'ils démissionnaient du principal parti d'opposition en raison de la gestion du Brexit, mais pas seulement. Ils reprochent également aux dirigeants du Labour, Jeremy Corbyn, de ne pas avoir réagi avec suffisamment de force aux nombreuses accusations d'antisémitisme au sein de son parti. La Pologne ne participera pas à la réunion du groupe de Visegrad prévue aujourd'hui en Israël après des propos prêtés à Benjamin Netanyahu au sujet de la complicité des Polonais dans la Shoah et qui ont suscité l'émoi à Varsovie. C'était il y a 3 mois, presque une éternité, des hommes et des femmes revêtaient un gilet de sécurité sur des ronds-points pour réclamer la fin de la taxe carbone. Depuis, la galaxie de ceux qu'on appellera les gilets jaunes s'est étendue en même temps que ces revendications appelant à une société globalement plus juste et moins fracturée. Toujours est-il qu'hier, et pour la première fois donc depuis le 17 novembre dernier, les protestataires avaient donc été conviés à manifester un dimanche pour célébrer l'anniversaire de leur mobilisation inédite. Et au final, que retiendra-t-on de ce 14e week-end de contestation? Sans doute une forme de lassitude, aussi bien parmi les manifestants qui ne parviennent plus à mobiliser autant que lors des premières semaines, que parmi les Français dont le soutien populaire envers le mouvement semble s'effriter au fil des sondages. Une fracture qui semble par ailleurs se dessiner au sein même des Gilets jaunes, entre modérés d'un côté et radicaux de l'autre. Ces divisions internes ont même explosé au grand jour après les insultes proférées hier à l'encontre d'Ingrid Levavasseur, l'une des figures pourtant du mouvement, prise à partie par des manifestants au point d'être contrainte de se mettre à l'écart sous les huées, sans oublier bien sûr la violente agression verbale dont a été victime la veille Alain Finkielkraut. Ou quand au fil des semaines, le mouvement poursuit sa mue vers une forme de radicalisation au point qu'on ne sait plus désormais de quelle colère on parle. Ce malaise a d'ailleurs encore transpiré tout le week-end parmi la classe politique cette fois-ci. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Même si au final cette classe politique dans son ensemble aura exprimé son indignation, certains auront été, disons, plus promptes que d'autres à le faire.
Barre-toi, sale sioniste de merde, pardon, mais face à cette phrase et à toutes les violentes injures reçues par Alain Finkielkraut samedi, la condamnation politique est à géométrie variable. D'Emmanuel Macron à Laurent Wauquiez chez les Républicains, de Marine Le Pen au Rassemblement National, à François Hollande ou Yann Brossa pour les communistes, il y a ceux qui condamnent tout court, sans réserve, et cette liste n'est pas exhaustive. Mais au-delà, il y a aussi ceux qui minimisent, tentent de justifier, d'expliquer, de faire porter au moins en partie au fil philosophe et à ses idées la responsabilité de ce qui arrive. Et ça, ça n'est pas possible pour Daniel Cohn-Bendit.
J'en ai rien à cirer de ce que pense Alain Finkielkraut, on est d'accord ou pas. Ce qui s'est passé, on ne veut pas le voir, on ne veut pas l'entendre. Que Jean-Luc Mélenchon mette 24 heures pour répondre à ce qui s'est passé. Quand quelqu'un dit « il l'a bien cherché », ils se rendent pas compte de l'histoire de ce que ça veut dire « il a bien cherché ». Les Juifs l'ont toujours cherché. Toujours quand il y a eu de l'antisémitisme, on a dit « ils l'ont cherché ». Et c'est pour ça que ça, je ne peux plus l'entendre.
L'ancien eurodéputé écologiste invité de France Inter ce matin est débecté par les tentatives de justification de ceux qui se désolidarisent des idées de l'académicien à ceux qui vont beaucoup plus loin. L'avocat Jean-Pierre Mignard, proche de François Hollande, par exemple. Pour lui, après tout, Alain Finkielkraut doit être content, il le cherchait. Il s'est excusé depuis. Le politologue Thomas Guénolé, candidat insoumis aux européennes, souligne lui que, depuis des années, Alain Finkielkraut répand la haine en France. Les insoumis, parmi lesquels certains contestent le sens des insultes lancées à l'essayiste, d'autres, proches du mouvement, accusent le gouvernement de monter en épingle des fausses nouvelles à base d'antisémitisme. La meilleure réponse à tout cela, conclut le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, ce sera la participation du plus grand nombre aux manifestations contre l'antisémitisme prévues demain partout en France.
Merci Rosalie Lafarge. Et pour continuer d'évoquer cette question de la violence visiblement de plus en plus désinhibée et qui émaille quasiment chacun de ces week-ends de mobilisation, invité du journal en direct et en studio avec nous, Denis Péchanski, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la mémoire. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Florence Turm. Bonjour Florence.
Bonjour.
Première question, monsieur Péchanski. Faut-il parler aujourd'hui de radicalisation du mouvement des Gilets jaunes ou bien, après 3 mois de mobilisation, ne reste-t-il au fond que les éléments les plus radicaux ?
Écoutez, ça serait une bonne solution hein, de penser qu'on est sur les marges, sur les bords, sur les limites, sur la queue de comète. Mais le problème, c'est que ces thématiques, qui sont des thématiques complotistes, antisémites... des thématiques renvoient aussi au rejet de l'autre, et l'autre étant aussi l'autre arabe, l'autre musulman, l'autre immigré, sont des thématiques qui sont dans le mouvement depuis l'origine.
Bon. Alors, les manifestations des Gilets jaunes ont déjà donné lieu à des actes de violence. Peut-on dire que l'on a franchi un pas supplémentaire précisément avec l'agression verbale dirigée contre Alain Finkielkraut, qu'elle révèle un antisémitisme latent qui s'exprimerait désormais sans retenue ?
Ben, c'est la problématique auquel nous sommes tous confrontés. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une sorte de continuum antisémite dans la société française depuis très très longtemps, bien entendu, et qu'il y a des moments où il y a des pics, il y a des accès de fièvre, et où se délite le corps social, et avec une forme d'atomisation de cette société, et qui passe par le rejet de l'autre. Il y a toujours le juif. Alors, il y a le juif et l'immigré, il y a le juif et l'étranger, il y a le juif et le communiste, il y a toujours d'autres, mais il y a toujours les juifs.
Il y a une explication à ces pics ? Pour l'historien, écoutez, que vous êtes.
Ce que je constate, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y a des crises fortes qui ont des origines à la fois économiques, sociales, idéologiques, politiques, et que ça se traduit par cette rupture, en quelque sorte, avec le pacte républicain d'origine.
Cette agression intervient dans un contexte préoccupant de recrudescence des actes antisémites en France, plus 74% d'après le ministère de l'Intérieur en 2018 par rapport à 2017. C'est antérieur, cela dit, au mouvement des Gilets jaunes. Et il y a un peu plus d'un an, vous étiez d'ailleurs signataire vous-même d'une tribune qui alertait sur la banalisation de l'antisémitisme à l'université. Alors comment appréhendez-vous, comment analysez-vous plus globalement ce phénomène ?
Je pense que il y a une forme de désinhibition qui est au cœur de l'affaire, c'est-à-dire qu'il y ait des antisémites dans la société française, ou des racistes, on le sait bien, sauf que ces personnes-là, à certains moments, dans certaines périodes, se disent « bon, je pense ça, mais je sais que j'ai pas le droit de le dire ». Aujourd'hui, ils se disent « je le pense et je le dis ». Bon. Et là, on doit s'interroger à la fois sur le contexte qui permet ça, et en particulier la haine qui est vraiment devenue consubstantielle du paysage politique depuis en particulier les dernières présidentielles. C'est quand même stupéfiant ce niveau de haine, et en même temps le rôle des réseaux sociaux. Et c'est là où je me permets d'insister un petit peu. Si jamais aujourd'hui je me mettais à proférer des insultes racistes, je serais condamné, mais vous seriez condamné parce que France Culture ou n'importe quelle autre chaîne aurait accepté de relayer ce que je viens de dire. Si jamais je le dis sur un réseau social, on peut éventuellement me poursuivre, et encore c'est un petit peu compliqué, mais alors, actuellement, et j'espère que ça va changer, les portails sont intouchables. Ce qui fait qu'on arrive avec ce système des réseaux sociaux avec l'horizontalité qui donne la possibilité à toute personne de s'exprimer et d'exprimer en général ce qu'il y a de plus nauséabond dans sa pensée, est abrité par cette couverture légale.
Vous nous emmenez sur le terrain judiciaire, le terrain de la loi. Des députés précisément veulent pénaliser l'antisionisme, sachant que le délit d'antisémitisme existe déjà dans le code pénal. Alors est-ce que c'est justifié, nécessaire selon vous d'opérer ce distinguo ?
Alors c'est très intéressant cette affaire parce que ça amène évidemment à s'interroger sur ce qu'est l'antisionisme et le sionisme. Bon, l'antisionisme n'est pas, comme je l'ai entendu ce matin d'un député France Insoumise, il a confondu volontairement bien entendu antisionisme et critique du gouvernement israélien. Ce n'est pas la critique du gouvernement israélien. L'antisionisme est de refuser l'idée qu'il y ait un État juif. Point. Voilà. Donc, on pouvait le faire avant 48 et la création de l'État juif. Et ça, on l'a fait après 48 avec la création de l'État juif, ce qui lui donne, évidemment, une autre dimension. On voit bien que, effectivement, l'antisionisme est un moyen pour un certain nombre de personnes, pas pour toutes d'ailleurs, qui l'utilisent et qui s'en revendiquent, mais d'habiller un antisémitisme qui leur est interdit. Bon. Je pense que si on passe par la loi aujourd'hui, c'est dangereux. C'est dangereux d'abord parce que c'est toujours dangereux de passer par la loi pour commencer à traiter des questions historiques. On l'a vu à plusieurs reprises. Deuxièmement, c'est dangereux parce qu'il y a une victimologie qui va être entretenue par ce type de discours. Et on va finalement évacuer la question centrale qui est posée par ces derniers événements. Et par ailleurs, vous savez, si l'antisionisme est considéré comme un antisémitisme, on va trouver un autre mot. Moi, je fais tout à fait confiance à des individus comme Dieudonné ou Soral pour habiller leur antisémitisme par autre chose que le terme antisioniste qu'ils veulent utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, les instruments judiciaires sont disponibles pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme, quel que soit l'habillage qu'on lui donne.
Merci Denis Péchanski.
Et merci à vous Florence Turm. Le procès de la tuerie du musée juif de Bruxelles où comparait le djihadiste français Mehdi Nemmouche a été interrompu ce matin, le temps que soit entendu par la police un juré ayant violé l'interdiction de communiquer avec des personnes extérieures. Il aurait confié au magistrat avoir rencontré vendredi dernier lors d'une suspension d'audience des personnes non entendues dans ce procès et avoir discuté avec elles de l'affaire. Le juré incriminé a d'ores et déjà été récusé et remplacé. Le réalisateur François Ozon saura aujourd'hui si, grâce à Dieu, son film tourné en 2018 et inspiré de faits réels dans lequel un prêtre est mis en cause nommément pour des actes de pédophilie sortira ou non en salle mercredi prochain. La justice doit trancher sur la demande du prêtre lyonnais Bernard Prénat, lequel réclame, lui, que la sortie du film soit reportée jusqu'à ce que lui-même soit jugé. Cécile Le Carvaz-Doué, bonjour.
Bonjour.
Alors au fond, cette affaire oppose deux affirmations, celle de la liberté de création d'un côté et celle du respect de la présomption d'innocence de l'autre.
Oui, il faut faire les choses dans l'ordre, explique par exemple le conseil du père Prénat. Le temps de la justice n'est pas celui du cinéma, même quand l'œuvre est d'utilité publique. La liberté de création a des limites, notamment quand il y a en jeu la perspective d'un procès prévu dans ce cas-là à la fin de l'année. Grâce à Dieu, raconte l'histoire des victimes du père Prénat qui se sont réunies en association afin notamment de recueillir la parole d'autres victimes du prêtre.
Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants ?
Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret.
Je suis horrifié par ce que vous me dites.
Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre.
C'est notamment cette scène du film qui gêne le conseil du prêtre qui reproche au cinéaste de ne pas avoir respecté certaines règles qui s'appliquent pourtant à toute œuvre de fiction liée à des faits réels. La première, c'est que le film et surtout les interviews qui en font la promotion suggéraient qu'il y a eu des viols d'enfants. Or, le prêtre est mis en examen pour atteinte sexuelle. Des caresses, des attouchements, des baisers sur des mineurs, mais pas de pénétration. Pas de fellation. Le cinéaste n'a pas non plus recueilli l'autorisation des personnes réelles dont il est question dans ce film. C'est le cas du père Prénat, mais également d'une autre plaignante, Régine Mère, cet ex-membre du diocèse de Lyon, a mis en demeure le réalisateur François Ozon pour qu'il retire son nom de son film. Elle sera également fixée par la justice cet après-midi au tribunal de grande instance de Lyon. Mais je ne dévoile aucun scoop, se défend pour sa part François Ozon, faisant référence aux écrits du père Prénat qui a reconnu les faits il y a 25 ans. Sauf qu'en droit, la reconnaissance n'a pas valeur de preuve. Pour ça, il faut attendre qu'il y ait procès. Et en attendant, le principe de présomption d'innocence s'applique. Les avocats de François Ozon rappellent pourtant qu'un carton présent dans le film prévient que le procès ne s'est pas encore tenu. D'où l'urgence d'attendre, rajoute le conseil du père Prénat, qui glisse que finalement toute cette histoire fait une grande publicité au film.
Merci Cécile de Carvaz-Douai. Puis j'ajoute que selon les avocats du père Prénat, le film de François Ozon, grâce à Dieu, sera autorisé par la justice à sortir en salle mercredi prochain. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps sera généralement encore bien ensoleillé à l'exception d'une légère dégradation sur le nord-ouest et le Languedoc-Roussillon. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 11 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.